Patrick, tu voulais dire
oui,
un mot.
Oui, non, mais Jonel Jeannet a parlé de, enfin, a utilisé un terme qui est très important, c'est le terme de validation. Alors, au risque de paraître plus radical que je ne suis, je pense que c'est un terme à réinterroger, en tout cas en tant que bibliothécaire. Bon, il est tout à fait clair que lorsqu'une revue de mathématiques ou d'histoire décide de se créer, ou de médiologie, il y a nécessité absolue à avoir un comité de rédaction qui valide, qui fait des choix. Hein. Je ne suis pas sûr que, je suis même sûr d'ailleurs, que dans le contexte actuel tel qu'il est en train d'évoluer, que nous avons évoqué ce soir, c'est plus la question de la validation qui se pose, c'est celle, et j'ose à peine utiliser le terme, c'est la question de la traçabilité. Je ne crois pas que le rôle des bibliothécaires, du réseau des bibliothèques à l'avenir, sera de valider quoi que ce soit, mais sera d'assurer aux éléments qui seront traités par ces bibliothèques, qui seront à mon avis, certes, encore des documents, mais également des process, par exemple des sites internet, hein, qui sont des processus, d'assurer à l'indexation de ces objets une traçabilité, hein, puisque tous ces objets sont interconnectés, de telle manière, parce que je crois que c'est ça l'objectif, ce sera ça l'objectif d'une bibliothèque, de telle manière que les différents parcours construits par ceux qui souhaiteront les construire, c'est-à-dire les usagers, hein, puissent se faire de la manière la plus sûre possible, en sachant où on va, d'où on vient, d'où viennent les objets, de telle manière qu'une construction soit possible. Hein. La notion de validation, bien sûr, est très intéressante. Elle fonctionne par rapport, je dirais, à un objectif précis, par rapport à une communauté de connaissances précises. Alors, la communauté peut être immense, mais elle demeure communauté, elle demeure limitée. Dans ce cadre-là, la notion de validation fonctionne. J'irai plus loin. La notion de collection, qui est une notion typiquement bibliothécaire, à laquelle tout bibliothécaire qui se respecte est attaché, cette notion de collection qui découle de la notion justement de validation, hein, de sélection, de validation, le bibliothécaire décidant de mettre en avant sur le rayon plutôt tel ouvrage que tel autre, parce que comme il ne peut pas tout mettre, il faut bien qu'il fasse une sélection, et il considère que ce faisant, il a un rôle éducatif, ce qui est tout à fait vrai, ce qui est tout à fait indispensable dans l'ordre du livre. Eh bien, cette notion de collection, dans le contexte tel qu'il évolue, où l'ordre du livre ne sera plus qu'un sous-ensemble, eh bien, cette notion de validation, de sélection a priori, à mon avis, devient insuffisante. Je ne dis pas qu'elle ne fonctionne plus, mais elle devient insuffisante. Et je ne dis pas que ce ne soit pas un problème. C'est justement là que réside le problème. C'est comment, en tant que bibliothécaire, aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pouvons-nous assurer sérieusement notre rôle, sauf à laisser échapper toute cette profusion que je n'appelle pas chaos, d'ailleurs. Ce n'est pas un désordre, ce n'est pas un chaos, au contraire. Il y a beaucoup de structuration dans le champ des réseaux de connaissances aujourd'hui. Mais si nous voulons agir sur cette évolution-là, eh bien, nous devrons, à mon avis, faire évoluer les concepts de validation et de sélection. Un dernier point, un peu sur ce sujet. Michel Melot a dit, bon, Patrick Bazin, je ne sais pas où le texte, distingue contenu et mode d'accès. Oui et non. Je pense au contraire que un des enjeux importants pour nous, bibliothécaires, c'est au contraire d'être proche des contenus, justement. Je veux dire, tant que le bibliothécaire se limitait, je caricature, hein, mais à cataloguer des ouvrages, certes, il regardait les livres pour les cataloguer, mais il appliquait une grille a priori sur un ensemble de documents. Accompagner le lecteur tel que je l'ai décrit très rapidement il y a quelques instants, dans sa quête d'une thématique, d'un questionnement ou d'une recherche, ça suppose du bibliothécaire un engagement aux côtés de l'usager, donc dans le contenu, beaucoup plus fort que ne l'était l'engagement du bibliothécaire jusqu'à présent. Moi, je défends vraiment beaucoup, dans la profession, d'ailleurs, Gérard Grimbert le sait, je défends la prise en charge des contenus, enfin, sinon des contenus, du moins du rapport au contenu, si je puis dire, par les bibliothécaires, hein, qui, pendant trop longtemps, et là, je suis sans doute un peu paradoxal, pendant 20 ans ou 30 ans, ces 30 dernières années, ont trop investi dans la pure technique, au détriment du contenu, mais au fond, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont oublié le lecteur, ils ont oublié l'usager, qui lui cherche des contenus. Hein. Donc, il y a peut-être un paradoxe là, mais qui n'est pas si paradoxal que ça. Je terminerai en disant que les bibliothèques traditionnelles, prenons la bibliothèque municipale de Lyon, où il y a 3 millions de documents, bon, c'est pas la BNF, mais c'est déjà une bibliothèque importante, pendant des dizaines d'années, pendant des siècles. Hein, elle remonte à 1565, cette bibliothèque. Elle était bibliothèque jésuite pendant 2 siècles, etc. Bon. C'est une bibliothèque qui, surtout, je dirais, au XXe siècle, parce que les jésuites, eux, s'en sont très bien occupés, mais au XXe siècle, oui, en un certain sens, c'était un chaos qui était organisé à la surface, parce que certains bouquins étaient catalogués, une infime partie. Il y avait des choses qui fonctionnaient. Mais combien d'ouvrages étaient introuvables, incommunicables au public, faute d'avoir été sérieusement traités par les bibliothécaires. Donc moi, je veux bien que l'on invoque pour, je dirais, faire la bibliothèque du futur, le mythe d'une bibliothèque passée qui aurait été extrêmement bien organisée. Je constate qu'au contraire, je dirais, la désorganisation, et Michel Meloy l'a dit, était dans une large mesure le lot de la bibliothèque traditionnelle. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un champ, me semble-t-il, au contraire, beaucoup plus structuré, mais qui, par contre, qualitativement, divergent. Hein. C'est-à-dire qu'on a affaire à des... J'ose à peine reprendre toujours ce terme de communauté qui est très connoté anglo-saxon, avec... Bon, mais quand même, nous sommes face à des communautés de savoir. Hein. Et le grand problème, justement, et là je rejoins les Lumières, si on veut éviter le communautarisme du savoir, si je puis dire, il faut prendre en compte ces communautés. C'est un peu le même débat, au fond, que le débat sociétal que nous avons en France aujourd'hui. Pour faire la République, il faut peut-être tenir compte quand même de certaines singularités. Ben, je dirais, dans l'ordre de la connaissance, c'est un petit peu la même chose. Moi, je suis pour structurer les choses. Je suis pour ouvrir le champ. Hein. Comme je l'ai dit, à partir du local, permettre aux gens d'embrasser un maximum de choses pour se faire une opinion. Bon, encore faut-il qu'on reconnaisse que, eh bien, un même ouvrage, un même document, il peut être vu de points de vue différents. Et que ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le document, ce n'est pas tellement de savoir où on le met, si on le sélectionne ou pas, c'est de savoir comment on crée des liens entre les différents points de vue sur ce document. Et c'est ce que j'appelle la traçabilité, qui est une notion différente. Excusez-moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Elle est un petit peu trop connotée supermarché, mais bon. Traçabilité, qui est une notion différente de la notion de sélection. Enfin, voilà.
Bien. Juste une remarque. Il me semble que le paradoxe que tu as évoqué d'investissement des bibliothécaires sur les contenus n'est qu'un paradoxe en apparence. Parce que, précisément, ce qui se met à fonctionner aujourd'hui, c'est que cet investissement sur les contenus de la part des bibliothécaires ne vaut que si les bibliothécaires admettent la réciprocité et donc l'échange avec des contributeurs qui ne vont plus être bibliothécaires. C'est une des évolutions, me semble-t-il, majeures auxquelles nous avons à faire face et que tu développes dans ton article. Mais mon voisin avait envie de réagir au premier propos, me semble-t-il, sur la validation.
Oui, et à la fin aussi, parce que du coup, comme il a continué de parler.
Et puis après, je pense que nous allons élargir le débat.
Trois brèves réactions. D'abord, à propos de la République, ça a l'air d'être hors sujet, mais ça ne l'est pas. La République, à mon avis, n'a jamais été le refus de la diversité. Elle est le refus de la communauté. La communauté qui s'autodésigne, et surtout la communauté où on assigne les gens. Communauté gay, vous disiez cette expression, je me rappelle un débat très intéressant entre Frédéric Martel et Ribon, par exemple, pour savoir s'il était légitime de parler de la sorte, surtout quand on ne voulait pas y être. Ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres communautés. La République reconnaît évidemment la diversité, mais elle a une certaine idée de l'universel. Enfin, c'est pour ça que je suis républicain, personnellement. Et par conséquent, il est d'autant plus nécessaire que l'universel soit servi dans l'organisation de la pensée en passant par la diversité que, de façon extraordinairement profuse, l'Internet nous offre. Deuxième observation, je pense qu'il faut réfléchir ici selon une autre position binaire entre la demande et l'offre. En gros, ce qu'on nous offre, c'est pas la même chose que ce que nous demandons comme utilisateurs. Je respecte la demande, bien sûr. Si on demande des choses, on a bien le droit de les avoir. Et d'ailleurs, quand on tape sur Google, d'une certaine façon, c'est une demande. Ça vous donne le choix d'une entreprise qui vous dit, avec quelques forfanteries, qu'elle va organiser l'information du monde. Effectivement, distinction information et culture. D'ailleurs, est-ce qu'elle l'organise vraiment? Je ne suis pas absolument sûr. En tout cas, ça, c'est de la demande, on répond à ça. Puis il y a de l'offre. Il y a de l'offre, c'est-à-dire qu'on vous dit, j'ai, moi, un certain schéma, une certaine idée directrice, et je vous le propose. Et puis, naturellement, vous pouvez en trouver d'autres. En trouver d'autres ailleurs. C'est là votre liberté de citoyen et votre liberté de, tout simplement, d'homme qui pense et qui réfléchit. C'est exactement le même débat. Là encore, continuité, écho, concordance des temps, tout ce que vous voudrez, par rapport à la radio et à la télévision. Dans les années 30, il y avait un grand débat entre les Américains et les Anglais. C'était les premiers Gallup. Les Américains disaient, il faut d'abord savoir ce que les gens ont envie d'avoir, et puis le leur donner. Ils seront contents, et en plus, ils consommeront de la pub. Je ne vais pas faire allusion à un propos récent d'un dirigeant d'une télévision de service public mu par le privé. Donc, c'est une première chose. Et en face, les Anglais disaient, non, ça ne nous intéresse pas, les sondages. Nous avons une certaine idée de ce qu'à la BBC, nous voulons donner aux gens. Et puis, vous verrez qu'ils seront contents, parce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui nous dire ce qu'ils ont envie d'avoir, puisqu'on ne leur a pas encore proposé. Quand on leur a proposé, ils commenceront de l'aimer, etc. Il ne faut pas aller dans l'excès inverse, parce que sinon, on tombe dans une sorte de prétention de petits groupes en disant « je sais moi ce qui est bon pour le bon peuple ». Mais enfin, il me semble personnellement qu'il vaut mieux aller plutôt du côté de l'offre, dans ce sens, que du côté de la demande. Voilà, j'avais une troisième idée, mais j'ai oublié laquelle et je m'en tiens là.
Bien. Y a-t-il des demandes de questions, d'interventions de... Après ces propos très riches. Alors,
on voit
très mal, mais enfin bon, je reconnais Louise Merzeau.
C'est moi qui ai le micro.
Quelle vue perçante.
Je te le passerai après. Bonjour François-Bernard Ruig. Je voulais revenir sur cette logique de l'accès ou ce problème du rouleau qu'a soulevé Michel. En fait, c'est le problème fondamental, c'est-à-dire celui du pouvoir d'indexer, c'est-à-dire en réalité le pouvoir de diriger l'attention des gens, qu'il s'agisse d'une quête de savoir ou d'une opération commerciale. Mais là où il y a pouvoir, il y a stratégie. Et ce qui me paraît intéressant, pour prendre l'exemple de Google, c'est qu'on voit se développer des stratégies très différentes. Je pense par exemple à la stratégie du tricheur, c'est-à-dire la stratégie, ce qu'on appelle le Google bombing, toutes les astuces qui permettent, en créant artificiellement des liens, en utilisant certains mots, etc., de remonter dans le fameux rouleau de Google, donc d'attirer plus d'attention, donc, etc., etc. Il y a d'autres stratégies, comme la stratégie de l'altruiste. Je pense là à un exemple comme Wikipédia, où des communautés de savoir, se validant les uns, validant les autres, finissent par élaborer un travail... commun. Peut-être, et là, ma question va peut-être à Jean-Noël Jeannet, qui a une stratégie Google, qui est de posséder le code et l'index, donc de posséder le pouvoir. Donc la question que j'adresse un peu à tous serait comment favoriser les bonnes stratégies en ce domaine.
Il me semble que nous avons déjà offert l'esquisse du début du commencement d'une réponse, avec l'idée qu'il était possible d'organiser des instances qui, sous le regard critique de tous, puissent déterminer des stratégies et qui affirment surtout qu'il faut résister, ce serait le point fondamental, résister à la tendance naturelle du marché qui fait que, comme la limaille de fer va avec l'aimant, la richesse va vers la richesse et que tout cela déséquilibre de plus en plus. On revient au propos initial sur la fracture du monde. Il y avait déjà un rapport de Sean McBride dans les années 70, qui disait que si on laissait l'information fonctionner toute seule, au nom des principes qui l'animent, il y aurait de plus en plus de différences entre le Sud et le Nord, entre ceux qui pourraient y accéder ou pas. Et par conséquent, je pense qu'il faut contrebattre cette tendance tout en respectant, évidemment, la formidable vitalité, mais en étant à côté ou au-dessus. Si la publicité fait marcher Google, moi, quand j'utilise Google, ça m'arrive souvent, mais peut-être suis-je plus facile pour quelqu'un qui a une certaine étamine dans la tête, qui a eu la chance d'avoir une certaine éducation. Si j'utilise Google, je suis content, mais je sais aussi que leur algorithme, même si on ne connaît pas très très bien le détail, aboutit quand même à ce que la richesse aille à la richesse, et que en haut de la, que le haut, par des systèmes très compliqués, des liens avec des sites qui ont eux-mêmes beaucoup de liens, enfin, peu importe le détail, d'une certaine façon, c'est quand même en tête seront des choix qui sont mus, d'une part, par le fait que ce sont, encore une fois, les plus fréquentés qui sont là, et ce n'est pas forcément les plus intéressants. C'est aussi pour ça qu'on a refusé la publicité pour les livres à la télévision, pour éviter qu'on aille à l'excès vers ce qui existe déjà. Et d'autre part, il y aura un autre moteur, c'est la publicité. Et c'est vrai que ça ne me choque pas en soi, je ne suis pas publiphobe. Je veux simplement en voir les effets, comme nos ancêtres de la Troisième République avaient envie qu'on distingue la publicité offerte et la publicité rédactionnelle. De la même façon, je n'ai pas envie, pour faire bref, qu'à côté de la recherche temps perdu, il y ait le nom d'un marchand de madeleine et à côté du Petit Prince d'un marchand de moutons.
Louise.
Merci. Alors, d'abord, je voulais vous dire qu'en tant que médiologue, que prof en sciences de l'information et de la communication, notamment dans une filière documentation, et puis tout simplement en tant que citoyenne, je trouve votre débat absolument passionnant, et je tenais à vous en remercier, et je pense que je ne suis sûrement pas la seule à penser cela ce soir dans cet auditorium. Alors, moi, j'ai été particulièrement sensible, d'abord, parmi beaucoup d'autres choses, à ce qu'a dit Patrick Bazin sur ce qu'il appelle la bibliothécarisation du monde. J'ai moi-même, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup et que j'aimerais même pousser plus loin en précisant qu'à mon avis, ce n'est pas seulement le fait que les savoir-faire et les techniques de recherche, d'indexation, de requête, de filtrage se généralisent, mais ce faisant, c'est aussi tout simplement les techniques documentaires et en particulier celles de l'indexation qui remontent en amont de la production. C'est-à-dire que plus le numérique va se diffuser, se systématiser, disons, dans la production même des contenus, plus ces contenus seront en quelque sorte déjà documentés, hein, déjà indexés. Alors, évidemment, toute la question est de savoir comment. Ce à quoi je veux en venir, c'est un aspect qui me semble important, justement, dans les points dont vous avez débattu, c'est le fait que la mise en trace des contenus et donc la documentation de ces contenus va être déjà de plus en plus automatique. Automatique parce que, donc, dépendant non seulement de machines, mais surtout de standards et d'algorithmes qui sont pour l'instant essentiellement dans les mains des intérêts industriels. Alors je crois que cette automatisation des traces aboutit, pour reprendre le mot de Patrick, à une traçabilité, mais qui est effectivement sauvage, hein, une mise en trace systématique et que plus personne ne contrôle vraiment. Donc qui repose effectivement, à ce moment-là, je pense, sous un nouveau jour, cette question de l'indexation. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit notamment Michel Melot, que, bon, faut, à mon avis, séparer en effet à numérisation et indexation, et l'enjeu principal est sûrement du côté de l'indexation. Alors, ma question et ma suggestion est la suivante. Est-ce que je me souviens d'une chose qu'avait dite et écrite justement Michel Melot à propos de l'indexation des images, à une époque où ça faisait beaucoup débat, là aussi, dans les photothèques et ceux qui étaient en train de devenir des médiathèques. Et il avait proposé, proposition tout à fait scandaleuse, comme la plupart des propositions qu'il fait, il faut le croire, hein, il avait proposé d'indexer non plus les images, car il s'avérait que c'était très souvent une impasse, mais d'indexer les requêtes, d'indexer la demande. Parce que c'était la seule chose qu'on pouvait finalement décrire, normaliser, de manière à coïncider avec des usages, et au-delà avec sans doute des secteurs ou des logiques d'usage. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre cette idée, c'est-à-dire d'utiliser justement ce que l'indexation a d'automatique pour orienter l'indexation peut-être moins sur les contenus que sur les requêtes, sur les recherches, sur les parcours, donc sur les usages même. D'abord, donc, première question, est-ce que ça vous semble une piste intéressante? Mais aussitôt, bien sûr, même si on répond oui à cette première question, on n'a pas pour autant vraiment répondu, car la question, c'est celle que soulevait ensuite Régis, la question, c'est de savoir comment former les usagers à élaborer des questions, hein, à élaborer des demandes. Est-ce que, justement, si on s'appuyait de plus en plus sur l'automatisation des traces, en faisant des sortes de cartographies, peut-être, des parcours, des recherches, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est déjà le fait, hein, on est pisté quand on se balade sur Internet. Bon, c'est à des fins économiques, ça pourrait peut-être être à des fins bibliothéconomiques. Mais pour autant, est-ce qu'on arriverait de cette manière à maintenir, voire à régénérer, le savoir questionné ? Ou est-ce que ça peut revenir donc aux bibliothécaires, entre autres, ou est-ce qu'il faut que ça s'élabore ailleurs, l'apprentissage de l'élaboration des questions ? Bon, je pense pour ma part qu'évidemment, il y a beaucoup de médiateurs là, qui sont interpellés, comme on dit, autour de ce défi. Et je pense entre autres que ça suppose de peut-être mettre plus l'accent aussi sur le savoir écrire dans le domaine des technologies numériques en réseau. C'est-à-dire qu'évidemment, là aussi, tout le monde peut faire un site web en 5 minutes aujourd'hui parce qu'il y a des logiciels qui proposent ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on sait faire un site web. Et notamment qu'on sait déposer, distribuer justement des liens qui permettraient justement cette dynamique, je dirais, intelligente de la connexion entre les contenus. Voilà.
Il y avait une demande là. Non, Michel, je t'ai vu, je ne t'oublie pas. Mais est-ce qu'il y a... On peut réagir. Réagis. Non, je... Oui.
Tu ne coupes pas pour... Si je suis trop long. Non, mais je vais réagir à cette question. Mais avant, en 2 secondes, par rapport à la question du rouleau, et puis de Google, au fond. Hein, bon, moi, vous l'avez compris, je suis pour des solutions tout à fait multiples. Mais surtout, et là je vais être un peu polémique et en même temps autocritique, hein, parce que je suis quand même bibliothécaire, je suis conservateur d'État, je dépends du ministère de la Culture et des universités, mais je veux dire, on a bien cherché la situation dans laquelle nous sommes. Hein. C'est-à-dire le retard des bibliothèques françaises, sauf la BNF, je veux dire, ce que fait la BNF est extraordinaire. À l'échelle internationale, il faut le dire, pas seulement par rapport à ce qui ne se fait pas en France, mais par rapport aux autres grandes bibliothèques mondiales, c'est un exemple, la BNF. Mais en dehors de la BNF, la BPI, une ou deux bibliothèques par-ci par-là, c'est quand même le désert. Donc il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver grand-chose maintenant sur les grands moteurs mondiaux. Moi, je connais assez bien la Chine, nous avons des partenariats nombreux avec les bibliothèques chinoises, c'est peut-être pas le meilleur exemple sur le plan politique, mais je peux vous assurer que les nouvelles bibliothèques en Chine, elles utilisent à tour de bras les nouvelles technologies, pour ne pas parler bien sûr des bibliothèques anglo-saxonnes ou autres. Donc il y a quand même un retard français et... je crois que la première chose à faire, c'est de faire confiance aux bibliothèques, chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Il y a eu très peu d'aide, très peu de subventions, de confiance en monnaie sonnante et trébuchante. Je parle en connaissance de cause. Hein. Bon, la bibliothèque de Lyon n'a jamais été aidée financièrement pour développer, expérimenter des choses. C'est quand même grave. Hein. Donc, il y a un retard à rattraper. Pas seulement de la numérisation des livres, mais également dans, justement, les process, l'apprentissage des outils, etc. Et pour ce qui est de votre question, moi, je ne séparerai pas vraiment les documents, les images, par exemple, des requêtes. Hein. Bon, effectivement, les requêtes, c'est l'élément nouveau. Il faut absolument s'en occuper, il faut les indexer. Je pense qu'il faut aussi se préoccuper des documents. Mais surtout, et là... Personnellement, bon, on est un peu dans l'utopie ce soir. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, généraliste. Moi, j'ai une vision, au bout du compte, assez politique du problème. C'est-à-dire que je crois beaucoup à la démocratie. Je pense que la question de la connaissance, c'est éminemment une question démocratique. Et que s'il y a un enjeu pour les bibliothécaires, c'est non plus de peser sur le système, si je puis dire, en termes de stock... Ce qu'il fallait faire jusqu'à présent, il fallait récupérer des bouquins, les organiser pour les rendre disponibles. Aujourd'hui, il faut peser en agissant. Le modèle de l'accompagnement de l'usager, mais qui peut être fractalisé. Hein. L'accompagnement, il se fait dans la bibliothèque principale à Lyon ou à la BNF, mais il peut se faire dans plein de bibliothèques, il peut se faire dans des bibliothèques associées, dans des écoles un peu partout. Cette réticulation hein, d'usage intelligent de l'Internet... avec comme acteurs principaux les bibliothécaires, me paraît, alors c'est peut-être une utopie, un enjeu tout à fait majeur pour nous. Prouver le mouvement en marchant, hein, je crois que c'est un des modèles d'avenir pour les bibliothèques, hein, et non plus simplement organiser du stock. Quoi.
Et en même temps, il me semble que la question de l'augmentation du stock demeure une question essentielle. Mais...
Il faut numériser les livres, bien sûr.
Il y avait une demande depuis longtemps, oui.
Bonsoir, tout d'abord. J'interviens ici, en fait, comme étant enseignant en l'éducation nationale. Et donc, votre débat m'intéresse beaucoup. J'avais deux questions, en fait, à vous poser. En fait, je voulais savoir si... La bibliothèque numérique qui pourrait être européenne, en tout cas je le souhaite, étant donné que nous sommes en France, dans un pays où les députés européens français sont les plus abstentionnistes au Parlement de Strasbourg, j'ai beaucoup de réserves à ce sujet, mais enfin bon, on verra bien. Je voulais savoir un petit peu cette bibliothèque numérique, si finalement elle ne répond pas finalement aux attentes du lecteur d'aujourd'hui, le lecteur usagé d'aujourd'hui qui est... Je dirais qui est dans une vue à court terme, comme le dit Yves Michaud. Donc nous sommes dans une société court-termiste, je dirais, et c'est je pense un problème pratiquement éthique que peut se poser la bibliothèque numérique, sachant que effectivement nous sommes dans une société où finalement on pioche et Internet finalement répond à ce besoin, l'accompagne et la croit. Et donc ça, c'est ma première question. Je voulais savoir ce que vous pensez là-dessus. Ensuite, en fait, deuxième question, je voulais savoir ce qu'une bibliothèque numérique, si elle voit le jour, j'espère, comment pourrait-elle rentrer en synergie avec l'éducation nationale, puisque on sait qu'il y a des lenteurs terribles, mais je dirais des lenteurs non pas d'un point de vue, je dirais, structurel ni même économique, mais des lenteurs, je dirais, d'ordre psychologique. Moi, je m'aperçois sur le terrain qu'il y a un retard énorme sur le plan de la pédagogie, puisque si on est dans une France, je dirais une France d'en haut, une France d'en bas, il y a l'Internet d'en haut et l'Internet d'en bas, dans l'utilisation. Et quand vous parlez des requêtes, je crois que là, on touche au cœur du sujet. Et je vois très bien l'utilisation que font les élèves de l'Internet sur le plan d'une recherche, justement. Ben, ça pose beaucoup de problèmes et je crois qu'il y a beaucoup de retard à ce niveau-là en France, concernant la pédagogie. Donc j'espère que cette bibliothèque numérique, si elle voit le jour, qu'elle rentrera véritablement comme un acteur prépondérant et, je dirais, un collaborateur avec l'éducation nationale.
Jean-Denis, il me semble que ces préoccupations ne vous ont pas échappé.
Oui, je suis sensible, comme vous, à ce qu'on appelle l'effacement du progrès, pour citer un autre auteur que Michaud. Il y a probablement, en effet, une crise de l'aspiration à un avenir clairement dessiné. C'est probablement préoccupant à certains égards, peut-être rassurant pour d'autres raisons, parce que ce nirvana a justifié à court terme beaucoup de barbarie. Quoi qu'il en soit, c'est précisément parce qu'il y a ce risque que la politique, au sens le plus noble du terme, doit réagir contre. C'est Tardieu qui parlait à un moment donné de la politique, dans les années 20, du chien crevé au fil de l'eau. Alors si on ne veut pas la politique du chien crevé au fil de l'eau, si on veut intervenir, si on veut agir, eh bien, il s'agit précisément de donner à tous ceux qui, tout en faisant du court terme, parfois malgré eux, faute d'offres, en réalité aspirent à enraciner dans le passé une réflexion sur l'avenir. Il y avait un mot de Françoise Sagan, d'une héroïne de Françoise Sagan, qui était un faux lapsus. Je ne sais pas ce que le passé nous réserve. Je mettrais volontiers cette formule en exergue à ma réponse. Deuxième question, l'éducation nationale. Bien sûr, je disais tout à l'heure qu'à mes yeux, c'est au service prioritairement des journalistes d'un côté, qui sont des truchements, des intermédiaires, des médiateurs, et des enseignants, qu'il faut organiser le chaos, qu'il faut organiser le vrac, sans s'en laisser submerger, et qu'il faut proposer une certaine forme d'organisation. Pour ça, évidemment, il faut aussi ne pas travailler sans contact avec l'éducation nationale, avec l'université, avec toutes les associations d'enseignants qui ont leur mot à dire. Il faut que le groupe qui dessinera ce que je souhaite voir dessiner soit ouvert, bien sûr, à toutes ces sollicitations. Et finalement, il s'agit, comme vous le disiez, de servir un effort pour diminuer la formidable inégalité qui est de tous les temps sur la façon d'utiliser un média qu'on vous offre. Il y a un fameux poème de Victor Hugo, je terminerai là-dessus, qui on interpelle un adolescent qui a brûlé une bibliothèque, vous vous rappelez ? Et le dernier mot, il répond simplement « je ne sais pas lire ». Voilà.
Bien. Pardon, ah oui, je n'avais pas vu.
Bonsoir. Je voulais juste vous féliciter pour la tenue de ce débat. Moi, je suis très, très optimiste, effectivement, peut-être un peu trop, mais enfin, je suis assez confiant sur l'organisation de cette bibliothèque numérique européenne, j'espère européenne, moi aussi. Quand je vous vois animé d'une passion, je me dis que tous les espoirs sont permis. Alors surtout, gardez cette même passion qui vous fait vibrer. Je pense que la différence avec les États-Unis, c'est qu'eux sont plutôt dans une posture de concurrence. Nous, on serait quand même plus en posture de cohérence si tous les acteurs, comme on a dit, jouent ensemble le même jeu, et de compétences. Moi, je n'en doute pas. Mais j'avais quand même une question, une inquiétude. Je voulais savoir, on n'a même pas parlé du tout d'un autre type de document qui vraiment est très présent dans nos bibliothèques aujourd'hui, qui est la presse. La presse écrite, notamment, qui elle, m'inquiète énormément. C'est quand même un gros, gros problème aujourd'hui. Autant je ne me fais pas de soucis pour le livre, on en a parlé au début, c'est vrai que le livre a encore une longue vie devant lui. Autant la presse, moi je trouve ça triste à pleurer de voir que les jeunes ne lisent plus la presse, ou beaucoup moins que bon, la presse réduit comme une peau de chagrin. Qu'est-ce que serait la place faite à la presse écrite au quotidien dans une bibliothèque numérique? Voilà ma question. Merci.
C'est à Michel Melot de répondre.
Non, je n'ai pas la réponse, bien sûr, mais ce qui me frappe, c'est que la presse, notamment le journal, a subi les mêmes attaques et suscité les mêmes inquiétudes de la part des partisans du livre et des bibliothécaires. Il y a dans Mallarmé des passages d'une lucidité extraordinaire lorsqu'il dit voilà ce qui est en train de détruire le livre, c'est le journal, parce que le journal n'est pas plié comme un livre, et le journal, il court, on va le jeter à la poubelle, c'est l'information. Enfin, déjà, tout le discours qu'on tient aujourd'hui contre la télévision, contre l'informatique, lorsqu'on lui adresse des reproches d'être versatile, fluide, inconsistant, instable, etc., on a déjà fait ce procès au journal. Alors je pense effectivement, vous avez raison, que le journal, pour dire rapidement, est un produit qui maintenant apparaît entre le livre qui a de telles qualités que je n'ai aucune inquiétude moi non plus sur son avenir, parce qu'on aura toujours besoin de s'y raccrocher, et l'informatique, la presse risque d'être victime effectivement parce qu'elle apparaît comme un hybride des deux et n'est peut-être pas aussi solidement armé que le livre l'est pour résister à l'informatique. Les nouvelles, maintenant, c'est vrai, c'est la télévision qui nous les apporte plus vite que le journal. Bon, ça ne veut pas dire que le journal va disparaître demain, mais je crois, comme vous, que sa situation est plus difficile. Je ne sais pas.
Je pense que la presse a beaucoup évolué, la presse écrite, mais qu'elle va durer. Je crois que chaque fois, encore une fois, qu'on a annoncé la fin de quelque chose, ça n'a pas été vrai, la fin d'un média. Il faut se méfier énormément de la morosité chagrine des vieillards. Il faut avoir des amis, quand à mesure qu'on avance en âge, qui vous disent « attention mon vieux, tout à coup tu bascules ». Même le grand Michelet, à la fin de sa vie, a dit « jusque-là c'était très clair l'histoire du monde ». Et puis, depuis 5 ou 6 ans, vraiment, on ne voit plus du tout. Tout se dégrade, on ne sait pas dans quel gouffre on peut aller. Valéry dit la même chose en 1935. Et Daniela Levy, à 80 ans, dans son petit essai sur l'accélération de l'histoire, dit jusqu'avant la guerre, les citoyens, ils étaient vraiment lucides, ils pouvaient s'informer, ils lisaient les journaux. Alors que Jean-Jacques Rousseau disait, avant, ils lisaient les livres, les journaux, c'est épouvantable, ça se jette, on met à la garde-robe le soir. Alévi dit quoi ? Et en 48, il dit, avec la radio, c'est fichu, la radio, on écoute les mots sans même les comprendre. Ils vous arrivent avec l'automaticité qu'on met dans le geste de porter une cigarette à la bouche. Alors tout ça, franchement, c'est désespérant. Jusqu'à ce que j'ai eu 70 ans, le monde n'était pas si mauvais. Juste pour réagir à ce que vous dites. Quant aux journaux, ce que nous pouvons faire, nous, c'est numériser beaucoup les journaux. Et quand je parle de bibliothèque, je pense aux livres et aux journaux. Le reste viendra de surcroît, je n'en doute pas. Il y a une telle pression dans ce sens. Les journaux, c'est pourquoi nous avons à la Bibliothèque nationale de France lancé il y a 2 ans un grand programme de numérisation de la presse, un programme pluriannuel. Et d'ici très peu de temps, vous aurez accès tout autour de la planète au Temps, au Figaro, à l'Humanité, à La Croix et à Ouest Éclair qui a précédé Ouest France jusqu'en 1940. Et puis, il y aura le Monde diplomatique. Et puis, il y aura, je ne donne pas d'autres noms, mais ils sont en train de venir nous voir. Ça fait boule de neige. Et ce sera également pour servir tous ceux qui apprennent la presse à l'école. Je pense aux magnifiques efforts, par exemple, de l'institution qu'on appelle le CLEMI. Tous ceux qui aident les jeunes à comprendre ce que c'est que la presse. Et certains viendront peut-être à la presse payante, pas par la presse gratuite. Tout ça n'est plutôt pas être vu en noir et blanc. Eh bien, ceux-là auront, quand ils se promèneront sur Internet, peut-être au hasard d'abord, puis ensuite, par détermination, possibilité d'aller chercher des choses futiles, peut-être d'abord le journal de leur naissance. Et puis ensuite, ils s'apercevront que c'est rudement intéressant. Et puis, ils auront envie de s'y promener de façon intelligente. Ça leur donnera envie de lire des livres dont on parle, etc., etc. Nous efforçons de mettre nous allons mettre ces journaux sur la toile, d'abord parce que ça servira ce que nous sommes voués à défendre, c'est-à-dire l'héritage culturel français aussi, bien sûr. Mais c'est également, à titre corollaire, peut-être égal d'ailleurs d'importance, le souci qui est le vôtre, qui nous anime.
Moi, je voudrais juste défendre la mémoire de Paul Valéry, qui, contrairement à ce que tu dis, Jean-Noël, dans Regard sur le monde actuel de 1935, est absolument prémonitoire.
Je donnerai le texte, tu verras.
Il annonce la société de l'ubiquité, qui, en des termes qui vraiment anticipent de 50 ans sur toutes nos dissertations, et il annonce avec joie la naissance, alors qu'il n'en avait aucun indice, de ce qu'il appelait les compagnies de distribution de réalité sensible à domicile, à savoir les télévisions. Et vraiment, je ne voudrais pas que faire de Valéry un vieux morose. Il n'était pas technophobe. Enfin, voilà, bon.
J'adore Paul Valéry. Je te donnerai un texte où il y a eu un bref moment, une brève absence. Il était vieux con.
Bien, encore une ou deux questions. Michel Fingerhout, bibliothécaire à l'IRCAM.
Sur la question du rouleau, qui a été débattu et qui était la première question ici, je dirais que finalement, celui qui déroule le rouleau, c'est celui qui a le pouvoir d'organiser le savoir ou le chaos. Enfin, ça dépend comment on le voit. Et quand on parle de Google, c'est un pouvoir qui est essentiellement marchand. Quand on parle de la bibliothèque, c'est le pouvoir des Lumières. Quand on parle d'analyser les requêtes de tout le monde, c'est le pouvoir de McDonald's. Mais il y a un pouvoir qu'on a oublié, c'est, enfin, vers lequel on y va, mais à reculons, c'est celui du lecteur individuel, où on le voit dans d'autres domaines, dans le domaine des blogs, où ils se créent leur propre taxonomie, ou voire même sans ordinateur. Chacun qui a des livres à la maison ne les organise pas forcément selon du way. Enfin, il y en a peut-être qui le font, mais... moi pas, en tout cas. Et donc, et il existe aujourd'hui déjà des logiciels qui permettent de prendre en compte dans des requêtes, en faisant une analyse, un apprentissage automatique de la requête, de savoir vers quoi s'oriente l'utilisateur individuel, pas l'ensemble des utilisateurs, mais donc profilé. Et c'est vers cela qu'un tel système pourrait aussi s'orienter, c'est-à-dire fournir à chaque lecteur individuel la possibilité de s'organiser sa vision de ce qui l'intéresse finalement, en s'aidant de ce qui existe, en le modifiant, en l'adaptant. Ça ne veut pas dire qu'il adaptera les documents, mais ça aussi, pourquoi pas. Finalement, la création, l'écriture, que ce soit des textes ou de la musique, c'est on construit sur le passé, donc on réutilise. Mais réutiliser les métadonnées, les taxonomies, les ontologies, les enrichir, les modifier et les adapter à leur propre vision du monde.
Montaigne faisait ça un peu au fond. Quand il lisait les auteurs anciens, il s'en nourrissait avec des cocons supplémentaires. Et puis quelquefois, il disait, tiens, je vais trouver une jolie formule. J'ai vu l'exemplaire à Bordeaux. Et tiens, si j'écrivais parce que c'était lui, parce que c'était moi, il l'ajoute en marge. Puis ça enrichit le tout. Ce type de cocon est antérieur à Internet.
Qu'est-ce que vous dites ? Pardon.
Non, prie, je finis.
Non, je voulais simplement approuver totalement ce qui vient d'être dit. C'est tout à fait dans cette direction-là qu'il faut si on veut relever le défi. Tout à fait.
Évidemment.
Bien.
Non, mais je me permets d'ajouter que
un dernier mot. Non, un dernier
attends,
mot.
Attends, je ne peux pas m'empêcher, oui. Par rapport à ce qui vient d'être dit, qu'il y a deux interprétations. Ou bien c'est la pulvérisation, hein, c'est même plus les communautés, là, c'est vraiment l'individualisation que beaucoup pourfendent, individualisation presque pathologique.
l'éclatement du corps social, ou bien au contraire, en termes démocratiques, c'est au contraire le fait d'armer, ça permet d'armer, c'est un petit peu ce que je disais avant, les individus, les citoyens, pour être davantage acteurs dans un système. Et je ne pense pas qu'il faille avoir peur de cela. Et par rapport à la question de la sélection, de la validation, etc., je pense que plus nous autres, nous tous, nous serons armés pour être des interlocuteurs, des acteurs du système, plus des phénomènes, je dirais au contraire, de contrôle, enfin de contrôle ou de sélection positive par la relation entre les acteurs du système pourront se mettre en place. Et les dérives, parce que bien sûr qu'il y a des dérives, hein, des dérives tribales, des dérives de type rumeur, etc., ces dérives-là seront, à mon avis, mais je suis sans doute trop optimiste, forcément minoritaires et marginalisées dans un système, je dirais, plus démocratique. Voilà.
Merci. Je voudrais vous remercier, vous dire que vous avez avec nous contribué ce soir à construire une toute petite brique de la bibliothèque numérique. On pourra retrouver en ligne l'intégralité de ces débats sur notre site très prochainement. Je voudrais remercier les intervenants, Patrick Bazin, Michel Melot, Régis Debré et l'Arvue Médium, et remercier tout particulièrement Jean-Noël Jeannet pour sa participation et aussi, comme l'a dit Régis Debré tout à l'heure, pour ce qu'on lui doit à la suite de cet appel. Et à travers lui, à travers le président de la Bibliothèque nationale de France, c'est aussi la Bibliothèque nationale de France que je voudrais remercier, parce que si son appel a eu cet écho, c'est évidemment grâce à son talent et à son autorité, mais c'est aussi parce qu'il est porté par cette très belle réalisation qu'est Gallica. Et nous espérons, quelles que soient les formes que ça va prendre, les chemins que ça va emprunter, qu'une bibliothèque numérique, une grande bibliothèque numérique européenne verra le jour. Mais il ne nous a pas échappé le propos du président de la BNF en début de soirée, qui appelait de ses voeux des moyens pour que Gallica passe à la vitesse supérieure en nombre d'ouvrages disponibles. C'est vrai pour Gallica et à sa suite pour les autres bibliothèques françaises. C'est un enjeu sur lequel, me semble-t-il, à la suite de cette soirée, nous allons plus que jamais rester mobilisés. Merci beaucoup.